Oh boy, c'est rare qu'on ait la chance de l'avoir deux fois dans la même semaine, notre chum David Chabot, pour couvrir l'actualité internationale. Mais on a besoin d'en parler. Ça a pété, mon gars, dans les dernières heures. Dans le secteur de l'Iran, 200 avions israéliens qui ont décidé d'aller atteindre des cibles assez importantes en Iran. Et ça a été mission réussie. Visiblement, l'Iran ne contrôle pas ses airs. Contrôle pas ce qu'il y a en haut. Là. Mais Israël commence à semer le trouble un peu, pas pire. Salut David Chabot.
Salut, salut. C'est-tu vraiment une chance de m'avoir deux fois dans la même semaine?
Pour moi, oui.
Okay. Oui.
Pour
moi, Pascal, assurément.
Je sais pas.
Hey, les sujets. Oui. C'est bien. C'est bien. Je suis contente que tu n'aies pas de golf aujourd'hui.
T'aimes ça, l'actualité internationale, Pascal?
C'est une question. Ok, j'étais comme, comment peux-tu autant ne pas me connaître après tant d'années? J'ai vraiment l'impression de sortir avec un gars, finalement.
On est en relation.
Hey,
mais sérieusement, 200 avions qui rentrent dans le territoire iranien puis qui décident de tout faire péter. Ils ont tué des grosses têtes de scientifiques. Ils ont tué des grosses têtes qui faisaient partie des généraux. Mission incroyable réussie, là.
Sérieusement, c'est encore un coup fumant, on va dire, d'Israël puis du Mossad.
Dis de même.
Oui, ben c'est ça. Le contexte est très différent de Gaza, par exemple, parce que là, c'est comme vraiment c'est l'armée de terre qui débarque avec les tanks puis tout ça. Là, tu sais, pour placer le contexte plus général, là, l'Iran développe, ou en tout cas veut développer, un programme nucléaire depuis des années et des années. Évidemment, ça fait pas l'affaire d'Israël parce que c'est deux ennemis mortels dans la région. Puis Israël a toujours voulu combattre le développement d'armes nucléaires dans le Moyen-Orient. Donc, en 1980, ils ont attaqué l'Irak, ils ont tout défait un réacteur, ça a arrêté ça là. En Syrie, début 2000, ça a fait la même chose. Donc là, ils n'hésitent pas à envoyer des avions, des chasseurs, tu sais, pour faire péter des réacteurs puis tuer des scientifiques pour arrêter un programme nucléaire. OK?
Ouais.
C'est un moyen efficace.
Mais c'est dans la façon de le dire, là. C'est...
c'est mieux que du porte-à-porte, mettons, ou du pluie-postage, tu sais. Donc là, ils ont fait un peu la même chose avec l'Iran. C'est un sujet qui bouillonnait depuis des années et des années. C'est le sujet aussi des négociations avec Donald Trump. C'était les négociations avec Barack Obama aussi à l'époque où il avait fait un deal avec l'Iran pour arrêter le programme nucléaire militaire. Donald Trump avait cassé ce deal-là quand il est arrivé au pouvoir à son premier mandat. Puis là, maintenant, il revient à la négociation avec l'Iran pour négocier quelque chose par rapport au nucléaire civil et non pas militaire. Donc là, ça, c'est le contexte, la trame de fond. Israël est en mode « je m'en sacre en ce moment, je fais le ménage ».
Okay. Est-ce qu'Israël est en maudit en raison du nucléaire ou Israël est en maudit parce que l'Iran, ils ont du pognon puis ils financent à peu près tous les groupes terroristes qu'ils peuvent financer?
Bien, c'est deux sujets évidemment très liés. Par contre, la vraie menace, c'est le nucléaire. Parce qu'une fois que tu as la bombe atomique, la bombe nucléaire, tu lèves la main et tu dis « il n'y a plus personne qui peut m'attaquer chez nous puis essayer d'influencer, dans le fond, mon comportement parce que sinon je t'attaque puis là, c'est la guerre nucléaire et tout le monde meurt. » C'est ce que la Russie fait avec l'Ukraine en ce moment. L'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire, mais la Russie l'a. Puis là, ben, toute l'OTAN se tient tranquille parce que la Russie dit « si vous faites quelque chose, j'utilise la bombe atomique. » La bombe atomique, je pense que c'est pas le bon. C'est vraiment la bombe nucléaire. Okay. Bref. Tout ça pour dire que là, on revient dans une situation où Israël veut pas que l'Iran ait ça, parce que sinon, là, ils perdent complètement leur levier. Israël a la bombe atomique en ce moment, la bombe nucléaire, je vais arrêter de le dire. Mais ils veulent pas que l'autre l'aille, parce que là, sinon, ça fait un équilibre des puissances. Puis là, ben, tu veux pas ça dans la région. Tu veux garder quand même un certain edge sur tes ennemis, parce qu'Israël, c'est un tout petit pays quand même dans le grand schéma de la vie. Là.
Mais je me demande toujours jusqu'à quel point ça compte, parce qu'il y a quand même ce genre de filtre-là et spectre-là, de se dire, il n'y a personne qui va quand même peser sur le bouton.
Ben, oui, là, dans le sens qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Tu peux faire des bombes sales aussi, ça. On n'aime pas bien ça. Donc, c'est une bombe conventionnelle, mais que tu mets plein de déchets radioactifs, puis là, tu fais péter ça, mettons, à Tel Aviv, puis là, tout le monde est infecté ou en tout cas irradié. Mais l'Iran, c'est une théologie très idéologique, là. C'est mené par la religion. Donc, tout est possible avec eux. T'sais, je vous dis pas que c'est le pire état voyou de la planète. Mais
les gros
pas...
barbus en gogoun, là, ils vont devoir répliquer. Ils vont y aller avec des drones. Est-ce que le dôme de fer en Israël est capable de faire face à ces drones-là?
Il faut savoir que la protection aérienne en Israël, c'est trois couches. Là. Ils ont chacun leur nom. On connaît beaucoup le dôme de fer parce que c'est vraiment la dernière défense. Là. Il y a comme un mortier qui tombe à courte distance ou un missile qui partait vraiment très proche. Là, ça va l'attaquer. Mais tu as la moyenne portée puis la longue portée pour faire vraiment une protection complète multicouche. Okay? Là, c'est très technique. Là. Mais tout ça pour dire que des attaques de drones ou de missiles balistiques, ça s'arrête assez facilement avec cette technologie-là. Donc, ils ne sont pas vraiment à risque en ce moment. Puis, il y en a eu certains qui ont été lancés là, dans les dernières heures, puis ça a été intercepté. Donc, ils ne sont pas vraiment à risque d'une attaque en ce moment puis de tout faire péter en Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'Israël a fait en Iran. Je ne sais pas si vous en avez parlé puis vous avez décrit un peu ce qui s'est passé ou pas à date, là, mais ce qu'on en comprend, parce que là, évidemment, les détails sortent à la goutte, là, c'est pas quelque chose qu'on met dans le journal en disant « voici tout notre plan de match », mais ils ont fait un petit peu comme l'Ukraine ont fait en Russie il y a quelques semaines. Ils ont placé des drones d'avance en Iran, proche de Téhéran, la capitale. Puis au moment venu, Israël a envoyé ses chasseurs avec les vrais missiles puissants, dont des F-35 furtifs. Mais au moment où ils passaient un certain palier, si tu veux, un certain endroit de l'Iran, les drones sortaient. Puis là, ils allaient faire sauter les radars, puis les systèmes anti-aériens, puis tout ça. Puis là, les jets pouvaient rentrer sécuritairement, puis faire les frappes, puis de repartir.
C'est du génie, là. Il y avait des conventions quand même aussi là-dedans, là.
Hein?
Il y avait des conventions aussi de guerre là-dedans. Là.
C'est-à-dire?
Ben, tu sais, il y a toujours... On en parlait même, c'est stupide, mais dans ce qui est mafia, Hells Angels, Blood Family, mafia, on le voit à petite échelle ici, comme quoi il y en a des conventions qui se sont détruites à travers le temps, mais dans la guerre internationale, c'est la même chose. Avant, on avait genre un paradigme, on protège les journalistes et tout. Toi, tu parles de cette cage de génie pour les avions puis les sécuriser, mais ça, on n'aurait pas eu à penser, il y a quelques années, que tout doit être encore revu et structuré. Parce qu'il y avait quand même des barèmes. Là. Tu t'attaquais pas nécessairement à toutes les flottes, même si tu étais ennemi.
Là, dans ce cas-ci, il y a eu des civils qui ont été tués. On ciblait justement les généraux puis les scientifiques, mais il y a des civils qui ont été tués. Mais moi, c'est toute cette belle coordination-là. C'est comme un balai, là, mais c'est un balai de guerre. Il faut que tout soit coordonné pour réussir à frapper aux bons endroits. Ouais. Je trouve ça incroyable. De l'autre côté, l'Iran paraît très mal. Là.
Absolument. Puis là, ils se sont fait décapiter toute la structure de haut commandement du programme nucléaire civil, mais qui va devenir militaire à terme. Puis le commandement militaire, le boss de la garde, pas de la garde républicaine, là, j'oublie le nom, là, mais je veux le dire, les gardiens de la Révolution, merci.
Ça, Viva c'est la Révolution! Je pars en même place. Hein.
Mais c'est comme une genre de milice, mais c'est un peu le même concept. Là,
ouais.
C'est comme une milice paramilitaire qui est utilisée par le commandement civil pour faire autre chose que de l'armée, mettons, là, les gardiens de la Révolution. Il y a un peu une police aussi des bonnes mœurs. Là. Fait que le boss de tout ça s'est fait éclater. Le chief of staff, le chef d'état-major, il faut que j'arrête de faire des anglicismes, le commandement de la force aérospatiale, le vice-commandement du commandement central. En tout cas, bref, il y en a une bonne liste. Là. Ça a fait mal, ce qui s'est passé. Là. Puis, ce qu'il faut voir aussi, il y a des images qui sortent maintenant. Puis là,
Trump continue de les menacer?
Menacer l'Iran?
Iran? Parce que là, l'Iran vient de se faire frapper par Israël, puis là, Trump en remet en disant « si vous vous défendez, ça va être encore pire ».
Ouais, c'est parce que là, lui, il est un peu le cocu de l'histoire, OK? Parce que il négocie avec eux depuis plusieurs semaines.
Exact.
Puis là, il a fait une proposition, il s'est fait dire non, il s'est fait proposer de quoi après, que ça n'avait pas de bon sens. Fait que tu sais, ça mène un peu nulle part. Puis là, Israël, un bon matin, ça fait un an qu'il travaille là-dessus, là, mais un bon matin, il pèse sur Play pour leur opération Lion émergent, là, Rising Lion. Puis là, d'un coup, ils viennent de régler le problème nucléaire pendant une couple d'années. Fait que là, Trump, il a l'air un peu coco, là, parce qu'il est comme « Ah, moi, je suis le grand négociateur qui a rien réglé dans cette histoire-là, parce qu'Israël, cette année, puis il a fait le ménage. »
Fait que lui, il dit ça juste pour bien paraître dans l'histoire.
Oui, puis je pense que honnêtement, il veut
pourtant,
un
pourtant, c'est pas son genre.
Non, ça arrive pas vraiment. Il aurait dû envoyer les Marines, parce que ça calme bien des affaires à Los Angeles. Fait que ça a fait... Bon.
Ouais, mais ça fait en sorte qu'il y en a du côté démocrate qui seront pas d'accord, puis ça va diviser le peuple aussi. Là.
Non, mais c'était une blague, parce que t'envoies pas l'armée en Iran. Là,
attention au sarcasme.
Ouais, je l'ai pas capté, celle-là.
Ouais, c'est ça. Des fois, il y en a qui ont de la misère.
Ouais,
un vendredi après-midi.
Je respecte ça. Ouais, fin de la semaine, c'est bon.
On vient d'un congé de 3-4 jours.
Ah ouais, OK. Alors,
faire de la pêche.
Encore l'esprit dans un grand lac. Là.
On a toujours pas vu les photos du capitaine.
Mais ah, on revient donc à nos moutons, là. On revient donc à nos marines.
C'est-tu quelqu'un d'intérêt,
le capitaine?
Ouais.
Je sais pas.
Non.
Capitaine, viens-tu du lac Beauport?
Non. Pas semblant. Là. Le capitaine, c'est quelqu'un du lac Saint-Jean qui fait ça de sa vie.
D'accord.
Puis, si vous voulez, il s'appelle Max Claveau. Okay. Tapez lacontario.com.
Mais c'est un vrai capitaine. Là.
C'est un vrai capitaine qui fait ça depuis des années.
Pas un gars qui a acheté un bateau.
Non.
Puis il a dit, je vais inviter.
C'était de la pêche.
Des madames pour la pêche.
Pescados.
T'en as pas pogné un au hasard au lac Saint-Joseph, mettons.
Non.
Le gars, c'est un professionnel.
Puis je pêchais pas la crevette d'eau douce.
T'es sûr? Hey, c'est toi qui ouvres la.
Vous voulez jouer? On va jouer.
Non, non, c'est assez. Là, c'est vendredi. Là. On n'y est plus.
Bande de crapets-soleil.
Donc, Trump, c'est un peu le cocu de l'histoire. Lui, il a dit à l'Iran, là, si vous répliquez, ça va être encore pire, mais il n'y a rien à faire, en fond.
C'est ça, parce que tu sais, finalement, il n'y a pas tant de leviers. Les répliques de l'Iran... Tu sais, by the way, je fais une parenthèse. Là, je me suis fait poser la question hier par plusieurs personnes. Est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? À chaque fois qu'il y a un conflit récemment, là, c'est tout le temps le début de la Troisième Guerre mondiale. À mon sens, non. Parce que premièrement, il y a une raison très technique là-dessus, c'est qu'entre l'Iran et Israël, il y a genre 1500 km. Fait que tu ne vas pas déployer ton armée pendant 1500 km pour attaquer l'autre pays. Ça se peut, mais ça se peut pas. Puis plus grand que ça, ben c'est un contexte qui est assez tendu, mais il faut tout le temps que tu vois c'est quoi la vraie capacité de mener la guerre, dans le fond, des pays. Puis l'Iran, malgré toute la posture qu'ils veulent se donner, qu'ils sont donc bien forts puis qu'ils ont la grosse technologie, ils ne sont pas capables de faire ça.
Mais on en a la preuve là. 200 avions qui rentrent chez vous, tu n'es pas capable d'en intercepter aucune. Plus les drones qui ont sorti, qui ont tout fait péter, paraissent vraiment mal.
Mais tu sais...
La suite, ça va être quoi?
Ben la suite, c'est que l'Iran va se calmer les nerfs. Hein. Parce que là, toute l'espèce de haut commandement militaire / paramilitaire, puis... Le programme scientifique nucléaire a été décapité littéralement. Là.
Puis le financement des groupes terroristes, est-ce que ça va cesser pendant un certain temps aussi?
Non, ça va continuer certainement. Parce que ça, c'est le levier d'influence de l'Iran au Yémen, au Liban, puis même à une certaine mesure en Palestine. Là. Donc ça, c'est leur levier pour écœurer tout le monde. Puis tout le monde sait ça.
Là, on pourrait faire un beau stationnement là aussi?
En Iran? T'arrives avec tes grands chevaux, toi.
Mais je tiens à dire, par exemple, que la stratégie israélienne par rapport à l'Iran, c'est très stratégique, justement, parce qu'ils ont attaqué des têtes dirigeantes, mais pas le peuple. Puis là, l'objectif, finalement, c'est que le peuple se lève à un moment donné et dise « Là, je suis écœuré de me faire ronner par les théologues à barbe. » Puis on va revenir dans une république démocratique comme on a déjà connu dans le passé. Donc là, l'objectif, c'est tout le temps de frapper très, très chirurgical les bonnes personnes, on va dire. Pour que le peuple fasse comme « OK, on a peut-être une chance de se faire libérer. » C'est des grands mots,
parce que
dans les
années 50-60, c'était un endroit où il faisait bon vivre.
Oui, là, c'est une histoire compliquée, parce que là, il y avait le Shah d'Iran qui avait été placé par les États-Unis, puis là, la révolution après est venue pour sortir l'influence américaine là-bas.
Bon vivre, peut-être avec un peu moins de brouhaha, mais bon vivre dans ce genre
non, mais il y avait
de
du tourisme.
Politique-là.
Il y avait du tourisme.
Tu pouvais y aller sans risquer ta vie, mettons, à chaque mètre. Ouais. Mais
tout comme en Afghanistan, dans le temps. Hein.
Oui, sauf que
les régimes
politiques. Oui, mais les régimes politiques n'étaient pas nécessairement bons pour les habitants pareils.
Ben, sincèrement, c'était pas
plus
si mal,
organisé. Là. Oui, mais tu sais, mettons que tu regardes ça, tu te dis, c'est quoi le moins pire? Je suis d'accord avec vous autres. C'était le moins pire que ces territoires-là peut-être ont connu, puis que ces sociétés-là ont connu, ces communautés-là ont connu dans tout ce qui a été établi à travers le temps. Mm-hmm. Mais c'était-tu bon? C'est tough avec notre regard d'occidentaux de se dire c'est quoi le meilleur, surtout quand c'est mêlé avec la religion. Mais je me permets quand même de dire côté droits humains qu'on est beaucoup mieux ici.
Mm-hmm. Il y a des autres sœurs qui disent l'Iran était jadis le pays musulman le plus évolué de la planète.
Exact.
C'est pas tort, là.
Non, c'est absolument. Ça, mais dans le pire.
Ben oui, effectivement. Mais tu sais, là, il faut tout le temps faire la balance du pays, comme un peu tu dis, là.
Ouais.
Parce que, tu sais, si on regarde l'Afghanistan, pour faire vraiment un exemple clair, ils sont passés d'une république semi-laïque, là, tu sais, à influence musulmane. L'URSS est rentrée, les Moudjahidines se sont mobilisés, la CIA les a financés, l'URSS est sortie avec la queue entre les jambes, puis là, ben depuis ce temps-là, c'est vraiment pas le fun d'être en Afghanistan.
C'est de pire en pire.
Fait que là, en Iran, en ce moment, je peux pas dire que c'est vraiment le parti non plus, là. Tu sais, ça pourrait être vraiment mieux, mais ça pourrait être aussi très, très pire que ça.
Donc, toi, ce que tu penses, c'est que dans les prochains mois, ça va être extrêmement tranquille du côté du développement nucléaire, mais pour ce qui est du financement des divers groupes terroristes qui financent, ça va continuer, ça, parce que c'est leur champ de bataille. Ouais.
Okay. À moins que, je fais une nuance, que le Mossad puis Israël continuent sur leur vibe de « on fait le ménage », là, comme ils sont en ce moment. Puis là, ils ont plus de gêne là, en ce moment, parce que là, ils attaquent au Yémen, au Liban, en Palestine, en Iran, puis là, peut-être en Syrie, peut-être ailleurs. Donc là, s'ils continuent à attaquer des responsables en Iran pour vraiment targeter les responsables du terrorisme, peut-être que ça peut faire une différence.
À la question « qu'est-ce qui va arrêter tout ça? » J'ai l'impression que poser la question, c'est y répondre. On n'a pas vraiment de possibilité en ce moment, sinon des alliances politiques dans lesquelles on va devoir perdre et gagner en même temps.
Oui.
Au niveau social, au niveau économique, au niveau territorial, ça va être éthiquement très difficile.
Oui, puis on le dit souvent, tu sais, combattre une idéologie, c'est vraiment difficile.
Ouf!
Parce que, tu sais, dans le temps, tu sais, les grandes guerres conventionnelles, parce que tu renverses un autre pays puis tu prends le contrôle, ça, c'est assez simple. Mm-hmm. Mais renverser une idéologie, on l'a vu encore une fois en Afghanistan, en Irak, t'arrives puis tu prends le contrôle du pays, c'est correct, t'as fait la première partie du jeu, mais la deuxième partie, c'est d'influencer les gens puis de t'assurer que mettons, les droits humains sont respectés, puis que l'idéologie que tu veux combattre disparaît. Puis là, plus tu la combats, plus elle devient forte.
Tu m'ouvres la meilleure porte possible. Les talibans, quand on est allé défendre le territoire du côté de l'Afghanistan, on s'est dit « Ah, parfait, on les a éradiqués. » Donc, on a éradiqué cette idéologie-là. Le peuple veut plus faire affaire avec les talibans. Ils sont revenus en faisant semblant qu'ils étaient prêtres, quasiment, puis en disant « Nous autres, on a la foi, les femmes vont pouvoir aller à l'école, vont pouvoir s'habiller où ils veulent. » Ça a pris un mois et demi, on est revenu à pire d'où on était. Il y a un mois, les talibans interdisaient aux citoyens de jouer aux échecs. Là. On est rendu dans des détails d'interdiction. Là.
Oui, c'est pas le fun. Puis, c'est, en tout cas, si on parle d'Afghanistan, la façon qu'ils sont revenus au pouvoir, c'était pour calmer le jeu, pour que Biden soit vraiment convaincu qu'il faut sortir les États-Unis de là-bas. Puis là, ils ont fait « Ah, tout est beau », ils sont partis, puis là, c'est revenu pas calme.
Puis nous autres, on a le tramway.
Ouais, ça, c'est un autre enjeu.
Salut, mon chum.
OK, merci.
Merci beaucoup. David Chabot, notre chroniqueur international qu'on avait pour une deuxième fois cette semaine. C'est-tu le fun? Chaque fois qu'on a besoin de lui, il est tout le temps là, puis en présentiel. Il va être là la semaine prochaine aussi en présentiel. Hein?
Peut-être au téléphone. Lundi.
Pardon?
Mais je vais conduire vite pour descendre à Montréal, puis au pire, tu paieras le ticket?
Non, ça, c'est Pascal. Les grosses poches, c'est Pascal.
OK.
Oui, j'ai
noté.
Tu peux prendre des vacances sans aucun problème.
Exact.
Peut-être une petite ride de bateau.
Moi, exact. C'est pour ma santé mentale. Si tu veux qu'on continue de travailler ensemble, il faut qu'une fois de temps en temps, j'ai une pause.
Salut, David!
Merci.
Bye-bye.